RTBFM, l'interview du jour.
Le vendredi 16 février, au sein de l'exploitation familiale au Champ des Amandes à Cucuron, a eu lieu l'inauguration d'un nouvel atelier dédié à la production, la transformation et le conditionnement des amandes de Provence. Cet événement a été l'occasion de découvrir les nouvelles installations, le processus de conditionnement et déguster l'amande sous toutes ses formes. À nos micros, Fabien Dauphin, exploitant depuis 2012, nous en dit plus sur cet atelier de production et de transformation.
On est à Cucuron, on produit de l'amande depuis quelques années déjà, et on a investi dans un atelier de production, de transformation, pour justement valoriser nos produits et les proposer au plus grand nombre. Donc on fait de l'amande apéritive, on fait de l'amande enrobée au chocolat, on fait tout un tas de produits autour de l'amande. Donc on est très heureux de ça et de proposer nos produits à nos clients.
Alors c'est une exploitation familiale ?
Oui, donc on est installé ici depuis longtemps. Moi, j'ai repris une partie de l'exploitation en 2012 et donc je me suis lancé dans l'amande assez rapidement et aujourd'hui, on est assez content de ça.
Vous avez combien d'hectares ?
On a 22 hectares.
Des variétés différentes ?
On a des variétés différentes. Donc nous, on cultive la Lorraine et la Ferragnès, donc des variétés d'amande. On va certainement aussi cultiver d'autres variétés donc, à l'avenir parce que le climat change, donc il faudra s'adapter. Mais pour le coup, on a un terroir qui est assez fabuleux pour faire pousser des amandes.
Alors pourquoi s'être lancé dans l'amande ? Est-ce que ça a été le point de départ ?
Parce que il y avait une demande qui était là. C'est vrai que nous on est des gros consommateurs d'amandes aussi, donc on consommait que de l'amande californienne parce qu'on n'en trouvait pas de Provence. Donc on s'est dit il y a vraiment une carte à jouer, donc on y est allé à fond.
Alors vous avez créé une marque, le Champ des Amandes. Pourquoi le Champ des Amandes ?
Alors c'est le champ justement comme chanter, parce que quand on prend les amandes et qu'elles sont sèches, on les fait tomber, vous savez, ça fait un peu le bruit du bâton de pluie. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur le champ des amandes.
Alors parlons un petit peu maintenant des étapes de la récolte. À quel moment on récolte ces amandes et puis comment est-ce que tout ça est conditionné ?
Donc on récolte les amandes en septembre, donc on fait deux passages en fonction des variétés. Après elles sont séchées, donc dans des séchoirs, puis elles partent à la casserie. Puis elles reviennent chez nous, là où elles sont conditionnées, stockées toute l'année pour qu'on puisse approvisionner nos clients.
Alors vous avez vécu malheureusement des années assez difficiles à cause du gel pendant 3 ans. L'année 2023 par contre a été une bonne année.
Voilà, donc on a eu 3 ans de gel successif. Alors ça nous a permis aussi de nous adapter, de nous poser des questions par rapport à notre verger. L'année dernière on a fait une bonne belle production, donc on espère que cette année le temps soit clément pour qu'on puisse continuer sur cette lancée.
Combien avez-vous produit justement de tonnes sur 2023 ?
Cette année, on a produit à peu près entre 18 et 20 tonnes d'amandes.
Et l'objectif, vous en avez un ?
Non, l'objectif, c'est de rester sous cette constante-là, essayer de lisser les productions d'une année sur l'autre, et puis surtout augmenter en fait, le conditionnement de nos amandes et gagner en visibilité et avoir un peu plus de clients.
Alors, vous travaillez avec votre épouse ?
Oui, on travaille ensemble. Elle plus sur la partie transformation et commercialisation, et moi plus sur la partie production.
Vous travaillez donc avec d'autres personnes tout autour, d'autres fournisseurs, d'autres producteurs ?
Nous, on travaille donc en circuit court, c'est-à-dire qu'on fait les marchés. On fait des marchés donc dans les petits villages autour de chez nous, que ce soit Cucuron, Lourmarin, Sénas. On travaille aussi avec les magasins de producteurs. On travaille avec des épiceries fines qui mettent en avant les bons produits régionaux. Et on commence à travailler avec la grande distribution locale autour de chez nous qui pareil, joue le jeu sur ces produits régionaux.
Alors parlons maintenant, là où on se situe, de ce laboratoire. À quoi ressemble ce laboratoire ? Qu'est-ce qu'on y retrouve exactement ?
Dans ce laboratoire, il y a donc une peseuse qui nous permet donc de mettre en sachet les amandes. Il y a également donc des étuves qui nous permettent de griller nos amandes, parce qu'on fait des amandes grillées pour le déjeuner, pour l'apéro, et aussi des grillées salées. Et donc voilà, on a ces ustensiles pour justement travailler toutes ces amandes. On fait aussi des enrobés au chocolat. Alors on ne les fait pas ici, comme je vous le disais. On les fait faire chez un confiseur. Mais on met tout en sachet ici, donc dans notre laboratoire.
Alors vous êtes aussi président du syndicat de producteurs d'amandes de Provence ?
Oui, c'est ça.
Alors en quoi consiste ce syndicat ?
L'idée c'est de regrouper, donc de fédérer tous les producteurs d'amandes autour d'un projet commun, c'est de se réunir, de trouver des solutions, que ce soit d'un point de vue technique ou même commercial, et travailler aussi sur les signes de qualité, tel IGP ou Label Rouge.
Alors au niveau régional, je crois qu'il y a eu cette année une production de 400 tonnes à peu près ?
Alors nous, c'est vraiment 400 tonnes, c'est les membres de notre syndicat. Je pense au niveau régional, on est plus aux alentours des 600. Mais du coup, voilà, 400 tonnes, c'est pas rien. Alors c'est vrai que c'est pas beaucoup par rapport aux géants californiens, mais en tout cas, ça veut dire que la production démarre et qu'elle va être de plus en plus importante au fil des années.
Alors est-ce que vous espérez peut-être renforcer la qualité de vos amandes par un IGP, par un label rouge ? C'est déjà le cas ?
La qualité de nos amandes, elle est déjà là. Sauf que justement, il faut qu'elle puisse être quantifiée, labellisée. Donc pour le coup, on va travailler sur l'IGP pour justement valoriser notre savoir-faire et attacher justement ce produit à notre terroir qui est assez exceptionnel.
Alors l'avantage aussi de l'amande, c'est qu'elle se conserve.
Oui, donc ça c'est un gros avantage. Nous, on va la conserver facilement au moins un an, 18 mois. Quand elle est conservée dans les bonnes conditions, on peut la commercialiser tout au long de l'année sans problème.
Et parlons un peu de diversification. Est-ce que c'est votre objectif sur le long terme? Et d'autres projets aussi?
Oui, totalement. Parce que c'est vrai qu'on voit que le climat change, il va falloir s'adapter. Les cultures qu'on a aujourd'hui, elles seront peut-être plus adaptées dans 20 ou 30 ans. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que nous, arboriculteurs, on travaille sur un temps long. Donc, pour le coup, on a un projet de planter des pistachiers qui sont plus adaptés au réchauffement climatique. Certainement aussi de l'olivier, qui sont des cultures qui ont des besoins en eau un peu moins importantes.
Donc, vous soulignez l'agrivoltaïsme aussi, peut-être, ça, c'est une piste?
C'est une piste. Donc, après, il faut choisir la culture qu'on y mettra dessous. Bon, voilà, il y a toute une réflexion autour de ça, mais... On s'y attelle et on y travaille.
Pour finir, vos amandes sont exportées localement, peut-être un peu plus loin?
Alors, on vend nos amandes dans la France entière, mais après, via la vente en ligne, on en expédie un peu partout en Europe. Même, c'est assez surprenant, des fois, de savoir que nos amandes partent en Suisse, en Belgique, en Pologne. Enfin, moi, c'est assez fou.
Vous avez des revendeurs qui étaient présents aujourd'hui, et notamment qui disaient que vos amandes sont dans des nougats.
Oui, alors on travaille avec des artisans locaux, justement, qui mettent en valeur nos amandes. Donc là, pour le coup, c'est les nougats boyés, donc qui travaillent nos amandes et qui fait un super nougat, justement, avec des amandes de qualité.
À la suite de la visite guidée des nouvelles installations, nous avons pu échanger avec Georgia Lambertin, présidente de la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Elle a notamment abordé les difficultés et solutions envisagées pour sécuriser les exploitations face au gel tardif et l'accompagnement mis en place par la Chambre d'agriculture pour lutter contre cet aléa climatique.
En fait, la Chambre d'agriculture départementale et régionale sont des outils techniques qui accompagnent, nous accompagnons les agriculteurs justement à mettre en place leur production, à mettre en place leur projet. Et je disais tout à l'heure que l'amandier est le premier arbre qui fleurit dans l'année. Donc évidemment, c'est celui qui est le plus risqué au gel tardif. Donc le rôle de la Chambre d'agriculture, ça a été de venir les voir après 3 années de gel quand même. De venir les voir et de se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait travailler techniquement pour justement pallier à ces gels tardifs. Et très vite, on s'est aperçu, le premier des techniciens sur son exploitation, c'est l'agriculteur même. Et Fabien a dit de suite, il faudrait aujourd'hui, chaque hectare planté doit être protégé. Et donc, on a travaillé sur ce point-là. On a travaillé techniquement, notamment avec la Chambre régionale, pour voir comment est-ce qu'il faut travailler ce point-là. Et on s'est aperçu que le gel se travaille au travers d'étudier la météo, mettre des stations météo pour savoir le gel qui va arriver, quel est le gel, à quelle heure, quelle température, est-ce qu'il va y avoir du vent. Et à partir du moment où on a étudié ça en amont, on va pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour mettre des mesures anti-gel. Alors ça sera des chaufferettes, ça sera par le vent, ça sera par... voilà. Mais pour que ça coûte à la limite le moins cher possible à l'agriculteur pour ne pas gaspiller sa protection et puis que ça puisse sécuriser le plus possible la production.
Vous soulignez aussi donc une souffrance des exploitations en ce moment.
Ah oui, là je pense que si vous voulez, ça fait très longtemps qu'on essaye de tirer la sonnette d'alarme parce que un agriculteur est très humble et un agriculteur ne sort pas facilement et ne se livre pas facilement. Mais là aujourd'hui on a atteint une souffrance au niveau de toutes les filières de notre département. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne se rémunèrent plus de leur production. Et aujourd'hui, il faut absolument que ça change pour qu'on puisse continuer à produire, bien sûr, et avoir ces filières d'excellence. Parce que sur le département du Vaucluse, nous avons pratiqué toutes les productions méditerranéennes. La moyenne d'une exploitation, c'est à peu près 23 hectares. C'est une moyenne qui est petite, 3 fois plus petite que la moyenne nationale. Par contre, le fait qu'on ait développé des signes de qualité, des IGP, des AOP, fait que nous avons des rendements à l'hectare qui sont bien plus supérieurs que la moyenne nationale.
Christian Mounier, conseiller départemental de Vaucluse et président de la commission agriculture, eau et alimentation, aborde avec nous l'importance de la diversification des filières agricoles et la nécessité d'un investissement et d'un développement constant de l'irrigation sur le département.
Si on veut que, suite à la crise viticole, nos territoires aient une vocation pour continuer à produire une agriculture, il faut qu'on essaie d'imaginer quelle agriculture peut être cultivée demain dans les parcelles de ce département. Donc, bien évidemment, si on veut imaginer diversifier les productions et les filières, il faudra qu'on ait les moyens pour cela et en priorité permettre le développement de l'irrigation dans les secteurs où il n'y en a pas, parce que Il y a historiquement des secteurs qui n'avaient pas besoin d'irrigation, des productions, des filières qui n'en avaient pas besoin. Et le réchauffement climatique impose alors aujourd'hui, si on veut avoir un avenir pour nos jeunes agriculteurs, d'avoir de l'eau, parce que sans eau et sans irrigation, il n'y aura pas d'agriculture demain. Donc c'est une obligation pour nous et c'est un challenge à relever. C'est pour cela que si on investit autant annuellement en investissement pour développer l'irrigation sur le territoire vauclusien, c'est parce qu'on croit en l'avenir, qu'on croit, parce qu'on a des jeunes, comme nous le montre aujourd'hui la famille Dauphin, mais qui ont envie, qui ne baissent pas les bras malgré les difficultés que l'on connaît aujourd'hui et qui innovent et qui pensent, et ils ont raison, que les signes de qualité, la traçabilité, le sérieux et l'assurance d'avoir une production qui est constante et qui est issue du cœur de la Provence, va permettre à leurs clients d'être rassurés sur la qualité et sur la quantité.
Alors, vous soulignez aussi l'accompagnement de la vente directe. C'est le département, peut-être, ça c'est un souhait.
Alors bien entendu que c'est un souhait, c'est pour cela qu'on essaie d'accompagner les structures comme Bienvenue la Ferme, toutes les structures qui font la promotion de la vente directe. Nous, on organise la plus grosse manifestation sur le département de Vaucluse qui s'appelle Terroir en Fête et qui permet de mettre en relation le public, le grand public avec l'ensemble des producteurs, parce que comme disait la présidente de la Chambre de Culture, on a la chance d'avoir toutes les filières qui sont représentées dans le département de Vaucluse, parce que mis à part les produits de la mer, on a tout. Donc, vous pensez bien que tous les restaurateurs, tous ceux qui utilisent les produits qu'ils ont besoin pour confectionner et nous régaler, confectionner des repas, ils sont très heureux d'être sur le département de Vaucluse parce que, encore une fois, on a toutes ces productions. Ils ont bien évidemment la vente directe qui permet en plus de mettre directement en lien l'acheteur avec son producteur et on voit l'engouement que ça représente sur les marchés physiques, les marchés de producteurs, parce que de plus en plus souvent, on a les consommateurs qui aiment savoir qui est le vendeur, qui est le producteur, d'où ça vient, parce que localement, ils les connaissent. Ils vont parfois directement à la ferme acheter, et donc c'est quelque chose qu'il faut encourager, et c'est quelque chose qu'il faut ne cesser de répéter.
Vous pouvez retrouver et écouter ce reportage en podcast directement sur notre site internet www.rtvfm.net.